Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 12 avril 2024. Le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a fait savoir que les élections n'auront lieu que lorsque le pays sera stabilisé.
On va attaquer les décrets devant les juridictions nationales et internationales, des décrets illégaux liberticides.
Sekou Niamey Batili, porte-parole du Rassemblement pour le Mali, à suivre dans la partie magazine. Au Niger, des instructeurs militaires russes débarquent à Niamey avec un système de défense aérien et d'autres équipements. En Afrique du Sud, rebondissement sur la question de l'éligibilité de l'ancien président Jacob Zuma, débouté par la justice en première instance. La commission électorale s'en remet à la Cour constitutionnelle pour une confirmation. La Russie se dit prête à dialoguer avec l'Ukraine sur la base d'un accord avorté en 2022. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Togo, les forces de l'ordre ont empêché aujourd'hui la tenue d'une manifestation de l'opposition à Lomé contre le projet controversé de nouvelle constitution. Les partis de l'opposition et un groupe de la société civile avaient appelé les Togolais à sortir massivement dans les rues de la capitale togolaise ce vendredi et demain samedi, malgré l'interdiction des autorités. Après un court échange avec les forces de l'ordre, les leaders de l'opposition ont décidé finalement de quitter le lieu de départ de la manifestation. Le gouvernement malien n'organisera des élections qu'après la stabilisation du pays. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre Choguel Kokala Maïga dans ses propos diffusés hier par la télévision d'État et sur les réseaux sociaux. Il n'a donné aucune date pour la tenue de ces élections. Les détails avec Nani Talani.
La phase de stabilisation doit atteindre un point de non-retour, un point suffisamment stable pour pouvoir organiser des élections, a insisté hier le chef de la primature malienne, Choguel Kokala Maïga. Mais la stabilité ne sera possible qu'après l'achèvement d'un dialogue national lancé le 31 décembre par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a-t-il dit. La réussite de ce dialogue et l'atteinte du niveau de stabilisation de la souveraineté du pays sont les conditions sine qua non pour fixer la date d'une élection, a-t-il martelé. Quant à ceux qui appellent à des élections immédiates, M. Maïga les a accusés de servir les intérêts des ennemis du Mali. Ces déclarations font suite à la suspension des activités des partis politiques annoncée mercredi par la junte. La haute autorité de la communication a emboîté le pas aux militaires. Dans un communiqué, elle invite tous les médias, radios, télé, journaux écrits et en ligne à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations.
Au Niger, Télé Sahel, la télévision publique, a annoncé hier soir l'arrivée d'instructeurs et de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre Niamey et Moscou. Claire Morin-Gibou.
Télé Sahel a diffusé l'arrivée de nuit d'un Ilyushin 76, un gros porteur russe, à son atterrissage mercredi à l'aéroport de Niamey avec à son bord, selon eux, des instructeurs et du matériel militaire du ministère russe de la Défense. La Fédération de Russie va installer un système de défense antiaérien capable d'assurer le contrôle total de notre espace aérien, a affirmé la télévision nigérienne. Un des instructeurs russes a déclaré être là pour, je cite, « former l'armée du Niger et l'aider à utiliser le matériel de différentes spécialités militaires ». Africa Corps, perçu comme le successeur de la société paramilitaire Wagner en Afrique, a confirmé vendredi son arrivée au Niger. Après la signature en décembre d'accords renforçant la coopération militaire entre la Russie et le Niger, Niamey avait dénoncé mi-mars avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, remettant en question la présence d'un peu plus de 1 000 soldats américains au Niger.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 7 villageois ont été tués dans le parc des Virunga, où ils s'étaient rendus pour faire du charbon de bois dans une zone en proie à la rébellion du M23. Les victimes, tous des hommes, venaient du village de Karambi, dans le territoire de Rutshuru, à une trentaine de kilomètres au nord de Goma, du moins capitale provinciale du Nord-Kivu. Les auteurs de ces meurtres n'ont pas été formellement identifiés, mais les habitants accusent le M23, mouvement rebelle qui, appuyé par des unités de l'armée rwandaise selon Kinshasa, s'est emparé depuis 2 ans de larges pans de la province, notamment dans le territoire de Rutshuru. Le Rwanda dément être responsable de cela. En Afrique du Sud, l'éligibilité de l'ancien président Jacob Zuma aux législatives du 29 mai a connu un nouveau rebondissement vendredi avec la décision de la commission électorale de saisir en urgence la plus haute cour du pays pour trancher sur le fond. Le point avec Rosine Monizero.
La commission électorale explique son appel urgent à la Cour constitutionnelle par la nécessité d'apporter de la clarté sur l'éligibilité de M. Zuma, tête de liste d'un petit parti radical à ces élections qui agitent le monde politique sud-africain depuis des semaines. Fin mars, la commission électorale avait invalidé la candidature de M. Zuma en s'appuyant sur la constitution qui interdit aux personnes ayant été condamnées à plus de 12 mois de prison de se présenter. Son parti avait saisi la justice pour faire annuler cette décision en arguant qu'il n'avait purgé que 3 mois en raison d'une remise de peine. Un tribunal électoral lui a donné raison mardi sans expliciter sa décision. Les Sud-Africains doivent renouveler le 29 mai leur parlement qui désignera ensuite le prochain président. Jacob Zuma est candidat sur la liste du petit parti radical récemment créé Umkhonto Wesizwe, pilier historique du Congrès national africain. Au pouvoir depuis 30 ans et la fin de l'apartheid, Zuma avait créé la surprise en annonçant en décembre soutenir le MK. Jacob Zuma, qui reste populaire en dépit de nombreux scandales, multiplie les déplacements et monopolise l'attention médiatique. Les derniers sondages prédisent une percée du MK, enregistré comme parti politique il y a seulement quelques mois.
En Libye, des affrontements ont opposé des groupes armés influents au cœur de Tripoli, la capitale libyenne, dans la nuit de jeudi à vendredi, sémant la panique parmi les habitants qui célébraient le 2e jour de l'Aïd al-Fitr, la fête marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. Des échanges de tirs à l'arme lourde ont éclaté entre des membres de la police judiciaire rattachés à la force Al-Rada qui contrôle l'est de Tripoli et ceux de l'autorité de soutien à la stabilité, groupe basé dans le quartier populaire d'Abu Slim. Les raisons des affrontements qui n'ont pas fait de victimes et ont duré environ 1 heure sont pour le moment inconnues, les autorités n'ayant pas donné d'explication.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël et les États-Unis se tiennent côte à côte pour faire face à l'Iran qui menace de riposter à une récente frappe contre son consulat à Damas, a déclaré aujourd'hui le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Pour leur part, les États-Unis ont fait savoir que les menaces d'attaque iranienne contre Israël sont crédibles et réelles. Le président Joe Biden a été informé à de multiples reprises par son équipe de sécurité nationale et les États-Unis entendent faire tout ce qui est possible pour assurer qu'Israël puisse se défendre, a déclaré John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche. L'accord de paix avorté d'avril 2022 entre la Russie et l'Ukraine pourrait servir de base à de nouvelles négociations, mais rien n'indique que Kiev est prêt à ces discussions, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Les précisions de John Lydon.
Selon les affirmations du président russe Vladimir Poutine, la Russie et l'Ukraine ont failli conclure il y a 2 ans à Istanbul un accord pour mettre fin à leur conflit, moins de 2 mois après le début de l'invasion déclenchée par Moscou, mais l'Ukraine a renoncé après l'échec de l'offensive russe sur Kiev. Ce pacte aurait contenu des clauses par lesquelles Kiev aurait renoncé à sa neutralité géopolitique, se serait engagé à ne pas intégrer l'OTAN, à limiter la taille de ses forces armées et à accorder un statut spécial à l'est de l'Ukraine, des conditions déjà toutes rejetées par Volodymyr Zelensky. Jeudi, Vladimir Poutine a de nouveau évoqué la possibilité de pourparlers, se disant ouvert à des négociations réalistes, mais hostile aux discussions que l'Ukraine tente d'organiser sans l'agrément de Moscou, comme la conférence que la Suisse compte accueillir à la mi-juin. Kiev réclame le rétablissement de son intégrité territoriale, y compris la restitution de la Crimée annexée par Moscou en 2014 et le retrait des troupes russes de son territoire.
Donald Trump fera face à son premier procès pénal lundi à New York dans une affaire de paiement présumé à une actrice de film pour adultes. Ce procès pénal sans précédent va démarrer par la sélection du jury qui devra dire si le milliardaire républicain de 77 ans s'est rendu coupable ou non de falsification de documents comptable de son groupe immobilier Trump Organization. Et puis le chef républicain Mike Johnson part rencontrer Donald Trump ce vendredi en Floride pour évoquer une série de dossiers brûlants au Congrès américain et essayer au passage de sauver son poste. Les deux hommes tiennent une conférence de presse ce soir pour évoquer en principe des questions d'intégrité électorale, mais nul doute que leurs conversations en coulisses seront plutôt centrées sur la litanie de textes sur lesquels les parlementaires américains s'écharpent. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Au Nigeria, l'ex-gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, a été libéré après avoir payé une caution de 50 millions de naira, soit 40 000 dollars environ, suivant de nouvelles accusations de corruption, d'abus de pouvoir et de fonction. Monsieur Emefiele, qui plaide non coupable, est aussi accusé d'acceptation de pots de vin et de cadeaux par le biais d'intermédiaires, participation à des pratiques de corruption, obtention frauduleuse de biens et d'octroi d'avantages indus à des associés, fraude au marché public et autres infractions. L'Égypte recevra de l'Union européenne une aide à court terme sous forme de prêts de 1 milliard d'euros pour aider à stabiliser l'économie du Caire, répondre à la détérioration de sa situation budgétaire et ses besoins financiers. 4 milliards d'euros supplémentaires de prêts sont prévus à long terme en 2024 et 2027, mais doivent encore être adoptés par les 27 membres du bloc. Pour terminer, Sibanye-Stillwater, géant minier sud-africain, annonce une vaste restructuration de ses opérations aurifères en Afrique du Sud qui pourrait entraîner la suppression de 4022 emplois. Les syndicats s'engagent à lutter contre ces licenciements motivés par une perte de 2 milliards de dollars en 2023 par Sibanye. La société a déjà supprimé environ 2000 emplois dans ses opérations de métaux du groupe du platine suite à la restructuration des puits déficitaires après la forte chute des prix des métaux.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Suite ce vendredi des rencontres de la 7e édition de la CAN de futsal au Maroc.
Oui, le groupe B entre en compétition avec 2 matchs au programme. L'Égypte, recordman du tournoi avec 3 titres, fait face à la Libye. Et juste après, les 2 novices, la Namibie et la Mauritanie, qui découvrent cette CAN de futsal, s'affrontent. Hier, dans le groupe A, le pays hôte, le Maroc, a réussi ses débuts en dominant l'Angola 5-2. Lors du match d'ouverture à Rabat, même score en faveur de la Zambie face au Ghana. La compétition va se dérouler jusqu'au 21 avril dans les salles Omnisports Moulay Abdallah et Ibn Yassine de Rabat. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Les finalistes et l'équipe classée 3e vont représenter l'Afrique à la Coupe du monde de futsal, prévue en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre prochain.
Le président de la FIFA reconnaît des problèmes de racisme dans le football.
Nous devons être unis pour combattre le racisme. Vinicius, l'attaquant brésilien du Real Madrid et d'autres en souffrent. Ces attaques qui les visent n'ont aucune raison d'être. Nous devons être unis contre la violence qui existe dans le monde, a déclaré le patron de la FIFA lors du congrès de la Confédération sud-américaine de football au Paraguay. Il nous faut agir ensemble avec les gouvernements, les équipes, les joueurs. Aller à un match doit être une fête, a poursuivi M. Infantino, qui s'exprimait devant les présidents uruguayens et paraguayens, mais à l'absence de leur homologue argentin. Ces 3 pays vont accueillir les rencontres inaugurales du Mondial 2030 avant que la suite de la compétition ne se déroule en Espagne, au Portugal et au Maroc. Plusieurs rencontres de football, notamment en Europe, ont été perturbées ces dernières semaines par des incidents racistes en tribune qui ont parfois contraint les arbitres à interrompre les matchs.
Ici en NBA, Boston chute une 2e fois.
Déjà certain de terminer en tête à l'Est avec le meilleur bilan de la Ligue en prime, Boston a néanmoins connu une 2e défaite de rang en s'inclinant 118 à 109 devant les Knicks. C'est une bonne opération pour New York qui reste 3e à 2 journées de la fin de la saison régulière. De leur côté, les New Orleans Pelicans ont pris une option pour une qualification directe en play-off en s'imposant 135-123 face aux Kings de Sacramento, 8e de la conférence Ouest. Golden State a maintenu le cap en dominant Portland 100 à 92 dans l'Oregon. Le Congolais Jonathan Kuminga a inscrit 19 points. Dans les autres rencontres, Chicago a battu Détroit 127 à 105 et jouera le premier tour des play-in face à Atlanta dans une rencontre sans enjeu entre deux équipes déjà éliminées de la course au play-off. Le Jazz s'est imposé face à Houston 124-121.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, la suspension des partis politiques fait des vagues. Plusieurs partis et organisations de la société civile se sont émus dans une déclaration commune le 31 mars du vide juridique et institutionnel laissé après le 26 mars et ont réclamé des militaires la tenue de la présidentielle dans les meilleurs délais. Yacouba Ouedraogo a joint à Bamako Sekou Niamey Batili, porte-parole du Rassemblement pour le Mali, ancien parti au pouvoir et membre du cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel.
Aucun texte ne prévoit la suspension des partis politiques par les autorités. La charte des partis politiques de 2005, la loi numéro 05-047 du 18 août 2005, déjà prévoit de traduire la nature des sanctions. Pour sanctionner les partis politiques, les sanctions sont graduelles. Ça va de l'avertissement à la dissolution en passant par la suspension. Mais le ministre ne peut faire que l'avertissement. La suspension et la dissolution relèvent du tribunal compétent. Ça veut dire que c'est les juges qui peuvent suspendre un parti politique. Les autorités ont pris cette décision qui est illégale et liberticide. C'est pourquoi nous avons dénoncé et nous avons rejeté le décret. Et nous avons quand même dit qu'on va attaquer le décret devant les juridictions nationales et internationales.
C'est quand même une junte qui est au pouvoir. Est-ce que vous avez foi que cela va aboutir?
Nous allons user de tous les moyens légaux. Mais c'est pour l'histoire aussi. Et nous avons dit qu'on ne va pas se plier à cette décision facilement comme ça. Nous allons les rappeler. Mais dans la même déclaration, nous avons aussi dit que nous n'allons pas prendre part à une seule activité organisée par ce gouvernement.
Le pouvoir en place appelle à un dialogue inter-malien. Est-ce que vous allez y prendre part ou non?
À cette allure-là, non. Nous n'allons pas prendre part à ce dialogue. Nous avons demandé à ce que les autorités abrogent ces décrets illégaux et liberticides d'abord, avant de prendre part à ce dialogue. Même avant de vous avoir tout de suite reçu une invitation au dialogue de notre parti au Gabon, les autorités de l'ambassade leur convient au dialogue. Et j'ai dit clairement que non. Conformément à notre déclaration d'hier, nous n'allons pas participer à ce dialogue-là. Tant que ce décret-là existe, nous pensons que prendre part au dialogue aussi est une activité, puisque selon la loi, quand les activités du parti sont suspendues, même les réunions, nous ne pouvons pas les tenir. Imagine qu'un parti qui ne peut pas tenir une réunion, comment il va prendre part à un dialogue? Par quel moyen? Monsieur, donc nous trouvons qu'il y a une incohérence dans la démarche même des autorités.
Le 31 mars, un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile ont sorti une déclaration constatant le vide juridique après la fin normale de la transition le 26 mars dernier. Est-ce qu'il faut faire un lien entre votre sortie là et justement la suspension de vos activités par le pouvoir?
Bien évidemment qu'on va faire un lien. Aucun des partis suspendus n'a posé des actes qui troublent l'ordre public, n'a posé des actes contre la sécurité interne, la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc pourquoi cette suspension juste après une déclaration commune le 31 mars de ces partis et associations, acte constatant la fin juridique de la transition et demandant la mise en place d'une institution institutionnelle, d'une architecture plutôt institutionnelle, pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais. Moi, je pense que par le passé, nous avons vu à chaque fois que quelqu'un parle des élections, à chaque fois que quelqu'un parle du retour à l'ordre constitutionnel, à chaque fois que quelqu'un rappelle à ses autorités leur engagement, c'est un problème. Donc nous pensons qu'il y a un lien entre ces décrets illégaux liberticides, ces suspensions de nos activités et la décision, la déclaration que nous avons faite le 31 mars dernier.
Sekou Niamey Batili, porte-parole du Rassemblement pour le Mali.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Des instructeurs russes sont arrivés ce mercredi à Niamey, accompagnant la livraison de matériel militaire russe dans le cadre de la coopération sécuritaire entre Niamey et Moscou. Sur les enjeux du développement de l'axe Niamey-Moscou, Yacouba Ouedraogo a joint à Paris en France Sedi Kaba, journaliste et universitaire, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel.
Il y a une reprise en main de Wagner par le département de la défense en Russie et Africa Corps ressemble à beaucoup d'égards à ce que Wagner a pu faire, mais cette fois-ci, ce n'est plus sous la dénomination de la société privée, mais dans le cadre d'une coopération bilatérale d'État à État entre la Russie et les pays de l'Alliance des États du Sahel.
Les instructeurs russes, comme l'annonce la télévision nationale, accompagnent un lot important de matériel militaire que la Russie apporte au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir ces membres de Africa Corps sur le terrain?
Non, pour l'instant, ils n'ont pas vocation à être déployés comme des unités combattantes dans le théâtre des opérations. Donc la vocation à ce stade-là, c'est qu'ils restent dans la capitale, sans doute dans différents services militaires, pour aider les Nigériens à utiliser, à connaître, à apprendre à manipuler et à apprendre à maintenir par la suite le matériel qui va arriver. Il s'agit d'un premier lot. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura du nouveau matériel, il y aura de nouveaux instructeurs qui viendront. Et à mon avis, c'est une forme de prudence pour les militaires nigériens aussi, sachant qu'il n'est pas évident que dans l'armée nigérienne, qui a une tradition en tout cas de refus de la présence étrangère, qu'un déploiement sur le théâtre des opérations des militaires étrangers, y compris russes, ne soit pas mal perçu par la troupe une fois que cela aura été fait.
Alors, mi-mars, le Niger a dénoncé avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, remettant en question la présence d'un peu plus de 1 000 soldats américains au Niger. Est-ce qu'il faut faire un lien, justement, entre cette dénonciation et l'arrivée de ces instructeurs russes-là du côté du Niamey?
En tout cas, il y a au moins une concomitance du calendrier. De toute façon, dès la prise de pouvoir par le CNSP le 26 avril 2023, il y avait une volonté de tourner le dos aux partenaires occidentaux pour aller vers un nouveau partenariat, et principalement vers la Russie, puisque le Niger s'est inscrit dans une dynamique de partenariat, de coopération, et même la création d'une alliance avec le Burkina Faso et le Mali, cette alliance des États du Sahel, dont la volonté est de privilégier très sincèrement la coopération avec la Russie. Et comme on sait, pour qu'il y ait une présence russe qui soit efficace, qui soit officielle, qui soit renforcée, elle n'est pas compatible avec une présence américaine. Et de ce point de vue, on peut comprendre que la junte soit dans une démarche de cohérence avec l'illusion pour moi que la présence russe peut être plus efficace parce que les Russes apportent très souvent les transports de troupes, les avions de combat. Du fait de cette offre, il y a une sorte de séduction. Pour l'instant, à regarder ce qui se passe au Mali, il n'est pas évident que la présence russe suffise à remporter véritablement le rapport de force avec les groupes djihadistes. Et si on ne prend garde, une partie de l'opinion qui a applaudi l'arrivée de la Russie en pensant que cette présence serait meilleure à celle de la France risque de se retourner contre ses différents pouvoirs militaires.
Sedi Kaba, journaliste et universitaire, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
En RDC, le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, nommé le 1er avril, tarde à être publié. Des dissensions d'ordre politique ainsi que des considérations juridiques seraient à la base de ce retard. Pour en savoir plus sur les tractations en cours, Antoine Roger Bolamba a joint à Kinshasa le professeur Ahmed Ousseni, analyste politique.
Les raisons peuvent être peut-être deux natures. La première nature ou la première raison peut être d'ordre politique et la deuxième raison peut être d'ordre juridique. Sur le plan politique, vous savez qu'en République démocratique du Congo, parce que nous avons un système semi-parlementaire où il faudra, lorsqu'on a les élections avant que le membre du gouvernement ne soit nommé ou n'entre en fonction, il faudrait qu'il soit investi au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, nous avons connu des élections le 20 décembre 2023. Aujourd'hui, presque 3 mois et demi se sont déjà écoulés. Mais c'est à peine que la Cour constitutionnelle venait de terminer à trancher les dossiers en contestation de résultats. Et les membres du Parlement viennent d'être investis. Alors, aujourd'hui, on peut avoir un gouvernement, les membres du gouvernement peuvent être reconnus. Mais pour qu'ils entrent en fonction, il faudrait qu'ils attendent encore du temps jusqu'à ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on aura un bureau définitif. Parce que le bureau actuel de l'Assemblée nationale, qui est présidé par le vétéran Mbosso Kodiampanga Christophe, ce bureau n'est que le bureau d'âge, n'est qu'un bureau provisoire. Et ce bureau d'âge n'a que trois compétences. La première compétence, c'est valider le mandat des élus. Deuxième compétence, c'est faire adopter le règlement intérieur de la Chambre. Et troisième compétence, organiser l'élection des membres du bureau définitif. Et tant que le membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale ne seront pas installés, en tout cas, il serait difficile d'avoir un gouvernement. Et même si ce gouvernement pourrait sortir avant, en tout cas, ce gouvernement devrait encore attendre un temps pour être investi, c'est jusqu'à ce que l'Assemblée nationale sera présidée par les membres de son bureau définitif. En tout cas, ça, c'est du côté du droit. En même temps, du côté politique, vous savez que la mise en place d'un gouvernement nécessite toujours des tractations, nécessite de négociations, et je pense que ces négociations demeurent en cours. C'est plusieurs forces politiques qui sont présentes à l'Assemblée nationale, et il faudra jouer à l'équilibre des choses, et cela pourrait aussi justifier ces retards, même s'il n'y a pas un délai fixe par la loi, comme quoi dépasser ce délai, il y a retard. Mais on constate que le gouvernement tarde à sortir, contrairement à ce que l'on peut peut-être vivre ailleurs.
Cela n'a aucun impact par rapport peut-être à la Cour constitutionnelle, qui pourrait connaître aussi les mêmes tractations.
Bon, la Cour constitutionnelle, les membres des juges de la Cour constitutionnelle touchent à leur fin le 15 avril de l'année en cours, c'est-à-dire d'ici presque une semaine. Mais je pense que cela n'aura pas vraiment beaucoup d'incidence.
L'analyste politique congolais Ahmed Ousseni.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Le président Joe Biden a reçu jeudi le premier ministre japonais Fumio Kishida et le président philippin Ferdinand Marcos Jr. afin d'envoyer un message clair à Pékin. La Chine doit cesser de se comporter de manière agressive à l'égard de ses voisins de la mer de Chine méridionale. Il a souligné que toute attaque contre les Philippines invoquerait un traité de défense mutuelle entre Washington et Manille, un sujet de notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Widakuskwara. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Les affrontements s'intensifient en mer de Chine méridionale. Les navires des gardes-côtes chinois déploient des canons à eau et effectuent des manœuvres dangereuses à proximité des bateaux philippins. Le sommet trilatéral qui s'est tenu jeudi entre le président Joe Biden et les dirigeants des deux alliés des États-Unis en Asie, le premier ministre japonais Fumio Kishida et le président philippin Ferdinand Marcos Jr., a mis l'accent sur cette question.
Toute attaque contre des avions, des navires ou des forces armées philippines en mer de Chine méridionale déclencherait notre traité de défense mutuelle.
Ces tactiques d'intimidation de la Chine, y compris l'éperonnage des navires, rapprochent dangereusement la possibilité d'un déclenchement du traité de défense mutuelle entre Washington et Manille. Marcos Jr. n'a pas publiquement mentionné la Chine, mais il a utilisé des termes diplomatiques souvent utilisés pour cibler Pékin.
Relever les défis complexes de notre époque exige des efforts concertés de la part de chacun, un dévouement à un objectif commun et un engagement inébranlable à l'égard de l'ordre international fondé sur des règles.
Kishida s'inquiète des tactiques chinoises similaires autour des îles contestées de la mer de Chine orientale, appelées Diaoyu en Chine et Senkaku au Japon.
Au milieu des crises multiples auxquelles est confrontée la communauté mondiale, une coopération à plusieurs niveaux entre les alliés et les pays partageant les mêmes idées est essentielle si nous voulons maintenir et renforcer un ordre international libre et ouvert, fondé sur l'état de droit.
La semaine dernière, les Philippines, les États-Unis, le Japon et l'Australie ont organisé des opérations navales et aériennes conjointes en mer de Chine méridionale de dissuasion face à Pékin, ce qui a suscité des critiques de la part du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.
La Chine est résolument opposée à la mentalité de la guerre froide et à la politique des blocs, ainsi qu'aux paroles et aux actes qui créent et exacerbent les contradictions et sapent la sécurité et les intérêts stratégiques des autres pays.
Biden, Marcos Jr. et Kishida ont annoncé de nouvelles mesures de dissuasion en matière de défense maritime, ainsi que des investissements dans les infrastructures aux Philippines et une collaboration en matière d'aide humanitaire mondiale.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute de l'âme.